Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Un fauteuil, une lumière changeante, quelques notes d'atmosphère brumeuse et un comédien seul sur le plateau au service du texte. C'est un enfant de la balle que nous recevons aujourd'hui. Sa mère, Jacqueline Moran, était pensionnaire de la Comédie Française. Son père, Jean-Serge, était metteur en scène. Et le fils n'a eu de cesse de mettre ses talents d'acteur ou de metteur en scène aussi au service des mots des plus grands auteurs. Corneille, Giraudoux, Racine, Shakespeare ou plus récemment Céline, avec Faire danser les alligators sur la flûte de Pan avec son complice Denis Lavant, spectacle récompensé par le Molière 2015 du meilleur seul en scène. Mais depuis 2010, donc depuis 9 ans déjà, Yvan Moran s'est emparé d'un texte très fort, écrit au cœur des années 50, mais qui résonne d'une façon extrêmement contemporaine, tant la force de sa présence scénique, sa voix claire et envoûtante, son articulation parfaite, nous le font voir et entendre en nous touchant au cœur et à l'âme et en nous plongeant dans des interrogations terriblement humaines. La chute d'Albert Camus est à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 29 juin au Théâtre des Mathurins et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Yvan Moran.
Bonjour.
9 ans hein, que vous travaillez et retravaillez et présentez au public ce texte. Racontez-nous pour commencer quand et comment vous l'avez découvert.
Alors, je l'ai découvert grâce à un professeur de français qui était peut-être l'homme révolté, puisque en classe de première, à l'époque où on faisait, je crois, la peste en première, il a dit « Je n'aime pas beaucoup ce texte et je crois que Camus ne l'aimait pas beaucoup non plus, donc on va faire la chute. »
Ah, moi, je n'avais c'est une jamais très bonne raison pour l'étudier.
Je n'avais jamais entendu parler de la chute quand j'étais en première. On avait fait l'étranger l'année d'avant. Et j'ai eu vraiment un coup de poing formidable à ce moment-là. Je pense que je suis passé, comme tous mes camarades de classe, à peu près à côté de 75% de l'œuvre. Mais néanmoins, il y a eu un vrai coup de poing. Et puis, cette œuvre m'a vraiment donner envie de découvrir Camus et pendant des années j'ai entre les biographies qui paraissaient tout ce que je pouvais lire j'ai vraiment plongé dans Camus jusqu'à un jour ça vous savez c'est l'inconscient quelquefois qui parle jusqu'à un jour pour un festival de lecture scénographiée dans le sud de la France on m'a téléphoné en fin 2009 en me disant voilà on aimerait que vous fassiez est-ce qu'il y a un livre que vous aimez particulièrement que vous pourriez et lire en scène, mais d'une façon scénographiée, avec une création lumière, peut-être un décor, quelque chose. Et je pense que c'est l'inconscient, parce que j'ai pas réfléchi, j'ai pas dit je vous rappelle demain,
ah oui.
j'ai dit la chute de Camus. Comme si ça faisait 30 ans que j'attendais.
Vous attendiez cette occasion.
Voilà, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai dit, et c'est comme ça que scéniquement ça a commencé.
Bonjour Agnès Piquel.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Valenciennes, vous êtes la présidente de la Société des études camusiennes, et vous avez entre autres participé, je dis bien entre autres, à l'édition des œuvres complètes de Camus dans la collection La Pléiade aux éditions Gallimard. Yvan Moran nous disait à l'instant que d'après son professeur, Camus n'aimait pas ce texte. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer?
Camus pensait que c'était un livre raté. Il y avait travaillé, retravaillé, on a plusieurs versions, et il n'était pas content de lui. Donc je ne pourrais pas dire qu'il ne l'aimait pas, mais il le dit dans sa correspondance avec Louis Guillou, ce livre est raté.
Voilà, correspondance que vous avez d'ailleurs publiée voilà. également chez Gallimard il y a pas très longtemps. Mais donc, à la base, ce texte n'est pas un texte de théâtre.
Ah non, c'était fait pour entrer dans un recueil qui serait un recueil de nouvelles. Camus est à un moment difficile de son écriture, il a eu beaucoup de mal sur l'écriture de La Peste et donc il vise des formes courtes et puis La Chute qui devait en faire partie prend des dimensions qui font que il le publie avant. Je pense aussi qu'il y a d'autres raisons, c'est que La Chute est d'un autre ordre, à la fois de l'écriture et même de la pensée de la littérature, que les autres nouvelles qui vont donner L'Exil et le Royaume. Et je trouve qu'il y a une justesse totale à ce que ce soit deux volumes séparés.
Alors ce texte, qui n'est donc pas un texte théâtral, Yvan Moran, il a fallu évidemment le rendre théâtral précisément. Alors c'est François Chaumette et Catherine Camus qui signent l'adaptation de ce texte, mais la théâtralité, elle était sous-jacente aux mots de Camus pour vous?
Alors elle est, oui, elle est tout à fait sous-jacente puisque déjà il y a un principe de base, c'est que le narrateur s'adresse pendant toute la chute à un interlocuteur, enfin il s'adresse à quelqu'un.
Donc c'est un monologue.
C'est un monologue, mais où il parle à quelqu'un. qui est censé lui répondre, l'interroger. Ce que je trouve évidemment théâtral, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi, dans ma cuisine de comédien, de me dire que peut-être il ne parle à personne d'autre qu'à lui-même. Il y a peut-être un interlocuteur qu'il trouve dans ce bar Mexico City Amsterdam, mais peut-être pas. Et dans les deux cas, et peut-être encore plus dans le second, c'est éminemment théâtral.
Alors, il y a beaucoup de peut-être dans ce que vient de dire Yvan Morin. Agnès Piquel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur les intentions de Camus en écrivant ce texte et sur cet interlocuteur invisible, mais extrêmement présent dans l'adresse du discours, finalement, du personnage de la chute.
Tout à fait. Camus ne dit nulle part qu'il s'agit d'un monologue. Il dit qu'il s'agit d'un dialogue dramatique. C'est le terme qu'il utilise. Et de fait, je suis totalement d'accord avec l'analyse d'Yvan Morane. L'interlocuteur est à la fois à l'extérieur parce qu'il a à convaincre, y compris dans ce qu'il est en train de faire et d'écrire, mais il a aussi à se convaincre et à travailler sur lui-même. Les deux choses coexistent parfaitement et on le voit très bien dans la mise en scène et le jeu d'Yvan Morane.
Alors, la mise en scène qui a beaucoup évolué, Yvan Morane, parce que il y a eu donc cette première lecture publique que l'on évoquait, et ensuite vous avez joué le spectacle donc comme réellement une pièce de théâtre en version scénique, pourrait-on dire, accompagnée sur scène par une violoncelliste, et cette violoncelliste-là, elle a disparu dans la seconde version. Alors, deux questions. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin au départ, dans un premier temps, d'une complice sur scène? Et pourquoi est-ce qu'ensuite, elle s'est effacée?
Alors, en effet, ce qui est intéressant, c'est que scénographiquement, la version actuelle que je joue au Théâtre des Mathurins est exactement la version de 2010 dans ce festival où tout a commencé. C'est-à-dire qu'il y a un fauteuil et une bouteille de genièvre. Quand j'ai été amené à théâtraliser, quand j'ai pu créer ce spectacle au Festival d'Avignon en 2014, il y a eu, et en tant que comédien, et en tant que metteur en scène, sans doute parce que c'est un récit, même un dialogue dramatique, mais pas une pièce de théâtre, j'ai eu besoin tout d'un coup de me rassurer avec à la fois tout d'un coup une scénographie beaucoup plus présente avec d'autres accessoires, d'autres éléments de décor, et que la musique soit jouée en direct par une musicienne qui représentait à ce moment-là un peu à la fois l'obsession de la femme qui s'est jetée dans la scène, mais aussi de toutes les autres femmes qui sont évoquées. Et je crois qu'il y avait également dans mon jeu de comédien une théâtralité un peu, je dis pas extérieur, mais extériorisé. Et c'est en fait, pour répondre à votre seconde question, c'est tout ça que j'ai souhaité enlever et de revenir scénographiquement à un fauteuil, une bouteille de genièvre, à une musique qui a une ambiance confiée à un créateur sonore, même si le choix des musiques me revient, et d'avoir un regard extérieur qui a été celui de Bénédicte Nécaille quand j'ai repris le spectacle en 2017, de manière à un peu enlever, comme des pelures d'oignon, d'enlever tout ce que j'avais par peur construit de théâtralisation qui pour moi était un peu extérieure.
C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'apurement, quoi. Il fallait
voilà.
Et travailler à la gomme plus.
Exactement. Il fallait travailler à la gomme et je suis encore chaque jour inquiet ou en interrogation sur le fait de rester dans cette épure, dans cette intériorisation et de ne rien montrer, de faire suffisamment confiance, ça je le fais depuis le départ, mais de faire confiance non seulement au texte de Camus mais de la façon dont il me traverse tous les jours et tous les jours de façon différente, ce qui est éminemment théâtral là aussi, pour ne pas avoir besoin d'expliciter par un jeu un peu extériorisé ce qu'il y a à transmettre.
Voilà, et c'est en plein visage et en plein cœur que le public reçoit la force de vos mots, la force des mots de Camus. En plus, donc la salle des petits Mathurins, comme son nom l'indique, est assez petite. Vous jouez donc extrêmement proche des spectateurs. C'est aussi le cas quand vous avez joué le texte au Lucernaire, ouais, à Paris aussi. La proximité, la petitesse de la salle, c'est vraiment essentiel pour ce genre de mise en scène ou pas?
C'est pas essentiel, parce que j'ai eu le bonheur de le jouer un soir au Théâtre de l'Atelier, En mai 17, à la demande de Didier Long, et le texte respire complètement différemment dans sur un grand plateau et avec un théâtre à l'italienne où on est plus loin du public, et c'est un autre rapport, mais je garde de cette représentation beaucoup de joie et d'émotion. Il est évident que là, cette proximité que j'avais au Lucernaire ou que j'ai maintenant au Mathurin est une aide, en tout cas, dans l'épure du jeu dont nous venons de parler, parce que ça me permet aussi de murmurer certaines choses ou d'être tout d'un coup d'une sincérité, donc sans penser à la voix du tout, qui est une chance.
Et donc c'est le public qui devient directement l'interlocuteur de Jean-Baptiste Clamence, hein, donc ce compatriote que cet ancien avocat parisien rencontre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un bar d'Amsterdam, et qui se présente comme un juge pénitent. Alors on va écouter un premier extrait de la pièce, sachant que tous les extraits qu'on diffusera d'ici la fin de cette émission sont issus de la première mise en scène. Extrait.
Qu'est-ce qu'un juge pénitent ? Ah ! Il y a quelques années, j'étais avocat à Paris. Et ma foi, un avocat assez connu. Bien entendu, je ne vous ai pas dit mon vrai. J'avais une spécialité, les nobles causes. La veuve et l'orphelin, comme on dit. Je ne sais pourquoi, car enfin, il y a des veuves abusives et des orphelins féroces.
Alors, comment est-ce que vous entendez ces deux mots qui, peut-être, n'en font qu'un, Agnès Piquel ? Qu'est-ce qu'un juge pénitent ?
Alors, le couple de mots a été totalement inventé par Camus pour fixer cette double attitude contradictoire de s'accuser et d'accuser les autres, je dirais, de s'accuser pour pouvoir accuser les autres et pouvoir amener les autres à s'accuser. Parce que c'est bien cela, toute la stratégie de Clamence. Alors, dans ses carnets, au Camus, ce qui sont un peu le laboratoire de l'œuvre de Camus, Camus dit très clairement qu'il vise cet univers du jugement dans lequel il sait qu'il s'est fait piéger. Et il y a une note où il dit très clairement, ce sont les existentialistes. Donc, il règle des comptes à travers cette attitude, mais il règle aussi des comptes avec lui-même dans l'ensemble de ses querelles, et bien plus que ses querelles, qui ont été son ordinaire depuis 7 ou 8 ans.
Oui, parce que donc le texte, donc La Chute, oui, paraît en 1956 chez, oui, Gallimard, il est écrit en 1955, on est donc quelques années après la rupture entre Camus et Sartre. Expliquez-nous en quelques mots, alors c'est très compliqué, ça pourrait faire l'objet évidemment d'émissions au pluriel, mais expliquez-nous en quelques mots les raisons de la rupture entre ces deux hommes qui s'étaient connus au journal Combat pendant la guerre, hein. C'est en 1943 la rencontre.
Oui, tout à fait. Ils ont été, j'allais dire, compagnons de lutte pendant quelques années, sans jamais être d'accord sur le fond, et très vite, Camus dit « je ne suis pas existentialiste ». Il ne partage pas la philosophie de Sartre, et puis, j'allais dire que psychologiquement, ces deux hommes sont très différents. Mais le fond de l'affaire est vraiment d'ordre politique. Il s'agit véritablement de l'attitude vis-à-vis du communisme. Sartre se situe en compagnon du communisme, Camus, dans L'Homme révolté, dit très clairement que devenue la révolution bolchevique, eh bien la révolte initiale en Russie s'est complètement dévalorisée, détournée de ce qu'elle était. Et c'est bien cela le fond des choses. Sauf que la querelle qui s'est instaurée de façon extrêmement virulente dans l'année 1952, a été bien au-delà aussi en termes justement de jugement et de condamnation réciproque. Et c'est bien de s'être fait piéger à l'intérieur de cela, et il y a eu d'autres querelles en même temps en 1952, qui fait que Camus réfléchit à cet univers du jugement perpétuel.
Alors le jugement, alors ça fait référence à la fois à la dimension morale, et puis ça peut aussi faire référence à la dimension procès, quoi, à la dimension justice. Sur quel axe il faut effectivement
les deux
penser.
Le terme de jugement joue sur tous les niveaux avec Camus, le niveau institutionnel, judiciaire, le niveau moral, mais aussi, j'allais dire, le niveau religieux dans cette perspective de la chute, hein, qui a quand même des connotations religieuses, le jugement dernier, c'est tous les jugements ensemble. Et c'est ce qui est vertigineux dans ce texte, c'est qu'il joue tout le temps et constamment à plusieurs niveaux en même temps.
En même temps, effectivement, et ça nous ramène encore à cette expression de juge pénitent, avec le mot pénitence, qui a effectivement aussi cette acception religieuse. C'est un procès, c'est une confession à laquelle le spectateur assiste, Yvan Morin ?
Je crois que c'est surtout une mise à nu d'un être humain. Et c'est ça, évidemment, qui me pousse à continuer de jouer ce texte, de le creuser, de toujours me dire que je ne suis pas au bout. C'est que c'est une mise à nu. Et quand Clamence dit le portrait que je tends à mes concitoyens, le portrait de lui-même devient un miroir, je passe dans mon discours du « je » au « nous », et quand j'arrive à « voilà ce que nous sommes, le tour est joué », je peux leur dire leur vérité. Voilà, c'est le cœur pour moi. Et là, c'est-à-dire que si c'était un jugement des autres, ça deviendrait sartrien et ça ne m'intéresserait plus. C'est une mise à nu d'un homme, et parce qu'il est nu, nous nous retrouvons tous dans nos zones grises du quotidien et de nos existences.
Agnès Piquel.
Sauf que cette mise à nu, elle est en même temps calculée. Et Clamence le dit lui-même, et dans le prière d'inséré, Camus le disait, elle est calculée et en même temps la souffrance est là. Et c'est ce qu'il est extrêmement difficile de faire en même temps, et vous le faites très bien, c'est de montrer à la fois le calcul et la mise à nu. Il y a un moment où il est totalement à nu et où il souffre, et en même temps il est en train de calculer et il va bientôt se rhabiller pour recommencer l'affaire.
Oui, parce que effectivement, on voit effectivement que le personnage retire ses vêtements sur la scène du théâtre des Mathurins et il en ressort exactement comme il l'était en y entrant, Yvan Morin.
Absolument. Il y a même une chose qui a tout d'un coup qui m'est apparue un jour dans les coulisses du théâtre de Lucernaire, parce que j'avais toujours eu un petit peu de mal, non pas à entrer en scène, mais à savoir comment aborder l'état intérieurement des premières phrases. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, Camus devait être à mes côtés, mais je me suis dit, en fait, quand je rentre dans le bar, je sors de chez moi, c'est-à-dire je sors des derniers mots que j'ai eus avec l'interlocuteur précédent, et j'ai eu le temps juste de sortir chez moi, et je rentre. Donc il est encore dans cette fièvre et dans cette quête, presque cette addiction, de se montrer, de se dévoiler, et cette question de il est sincère, totalement à nu et en même temps il calcule, c'est aussi une interrogation quelquefois phrase par phrase que je continue de me poser après les représentations pour doser et savoir à quel moment, sur quel mot parfois il y a un retournement, mais il y a des moments de sincérité absolue, c'est indéniable pour moi.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Agnès Piquel qui préside la Société des études camusiennes et Yvan Morin qui joue et qui met en scène La Chute d'Albert Camus actuellement au Théâtre des Mathurins à Paris. Et c'est vrai, Yvan Morin, que ce personnage se met à nu d'un bout à l'autre de la pièce avant effectivement de se rhabiller au sens propre comme au sens figuré du terme. Et c'est vrai que le personnage évolue quand même énormément. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression, lorsque vous apparaissez sur la scène, que ce Jean-Baptiste Clamence est un hâbleur, qu'il est très sûr de lui, que c'est un être méprisant, même cynique. D'ailleurs, je crois que dans la note d'intention, vous faites référence au personnage de Dostoïevski.
Oui, parce que simplement je sais que Camus adorait Dostoïevski et son adaptation des Possédés, etc., etc. Mais moi dont le père était russe, enfin ukrainien exactement, j'ai été aussi beaucoup nourri de la littérature russe, de Tolstoï, de Dostoïevski quand j'étais à un âge où normalement on ne lit pas ça. Je trouve qu'il y a dans Clamence une dimension dostoïevskienne qui, moi, me bouleverse.
Alors, laquelle, plus précisément ?
Eh bien, exactement ce dont on parlait il y a quelques instants, c'est-à-dire, je me mets à nu, je vous montre ma souffrance, mais en même temps, cette souffrance, c'est du théâtre. Et même quand je suis complètement à nu, en ce moment je suis en train de lire la correspondance de Pasternak avec Tsvetaïeva, c'est incroyable ce qu'il y a de dostoïevskien aussi dans cette je suis sincère, mais en même temps que je suis sincère, ne me crois pas parce que je mens. Et cette dimension autodestructrice et en même temps d'une lucidité quasi insupportable sur ce qu'est l'être humain, moi, me semble très dostoïevskienne et me bouleverse.
Le procès des autres, au contraire, se faisait sans trêve dans mon cœur. Certainement, cela vous choque. Vous pensez peut-être que ce n'est pas logique. Mais la question n'est pas de rester logique. La question est de glisser au travers et surtout, oh oui, surtout, la question est d'éviter le jugement. Je ne dis pas d'éviter le châtiment, car le châtiment sans jugement est supportable. Il a un nom d'ailleurs, qui garantit notre innocence, le malheur.
Le malheur. Et là, Agnès Pickel, on en revient à une question essentielle pour Camus, c'est la question de la responsabilité. C'est aussi la question de la liberté qui sous-tend effectivement l'attitude, le personnage de Jean-Baptiste Clamence.
Oui, Jean-Baptiste Clamence n'élude absolument pas sa culpabilité. C'est ce qui fait toute sa douleur. Le terme que Camus utilise, c'est douleur dans le prière d'inséré. Et il a, si je peux me permettre de revenir un tout petit peu, qui me paraît très dostoïevskien aussi, une nostalgie immense pour l'innocence qui permet de se pardonner à soi-même et qu'il a définitivement perdu. Et il y a une phrase que je trouve déchirante et que vous dites très 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 bien de ce point de vue-là. Mais justement, Clamence sait qu'il est coupable et même s'il évite toute cette s'il évite tout jugement, c'est une confession calculée dans la mesure où il y a plusieurs facteurs de culpabilité. On met toujours en avant la jeune fille qu'il a laissé se noyer, mais il y en a d'autres qui l'égrènent au fur et à mesure et qui sont tout aussi graves. Et s'il se sent coupable, c'est bien qu'il savait qu'il aurait pu ne pas faire ce qu'il a fait. Et que donc, cette culpabilité, il la porte, et il la porte, et d'une certaine manière, il l'assume, puisqu'à la fin, il dit que de toute façon, il ne se replongerait pas dans la scène, il ne sauverait pas le prisonnier qui meurt de soif, etc.
Oui, Yvan Morane, et c'est vrai que ce texte-là, vous le jeter un peu hein, aux oreilles et aux yeux, parce qu'on a vraiment l'impression de voir les mots à travers votre corps sur scène. Alors, c'est très étonnant, parce que vous avez... Je sais que c'est une question qui est très très difficile à poser à un comédien, a fortiori un comédien de théâtre, mais cette question de la présence. Comment est-ce que l'on fait pour être autant présent sur une scène de théâtre? C'est un don, c'est... ou ça se travaille?
La présence, ça ne se travaille pas. Ça, je suis affirmatif. Il y a une technique théâtrale qui s'acquiert par rapport au corps, par rapport à la respiration, par rapport à la voix, enfin, il y a tout ce qu'on sait et qu'on sait qui existe et qu'on met des années à apprendre dans des conservatoires ou dans des écoles et par la pratique. La présence, ça ne se travaille pas, ça ne s'apprend pas. Moi, vous avez rappelé que mon père était metteur en scène, ma mère comédienne, donc j'ai traîné dans les coulisses de théâtre ou dans des salles de spectacle de théâtre très très enfant. Quelquefois, il y avait un comédien qui jouait un tout petit rôle, il rentrait et en tant qu'enfant, donc avec l'innocence de l'enfant, je ne regardais plus que lui. Et pas les rôles principaux. Et je crois que ça, il ne faisait rien pour.
Mais ça passe par le physique. Ça passe par les mots. Par les deux.
Eh bien, pour moi, ça ne passe ni par les mots, ni par le physique. Ça passe par quelque chose qui est beaucoup plus profond. Alors, je dirais l'âme au sens laïque, ce qui est peut-être une contradiction. Mais pour moi, c'est ça. C'est la présence, c'est quand on offre au public son âme, encore une fois au sens laïque, c'est-à-dire ce dont on est composé depuis un certain nombre d'années, les souffrances, les joies, les bonheurs, les déceptions, les angoisses, et que on ramasse tout cela avant de rentrer en scène et qu'on a un besoin vital de l'offrir.
Un jour vinrent je n'y tins plus. Ma première réaction fut désordonnée. Puisque j'étais menteur, j'allais le manifester et jeter ma duplicité à la figure de tous ces imbéciles avant même qu'ils la découvrissent. Je méditais par exemple de bousculer les aveugles dans la rue et à la joie sourde et imprévue que j'en éprouvais, je découvrais à quel point une partie de mon âme les détestait. Je projetais de crever les pneumatiques des petites voitures d'infirmes, d'aller hurler « sale pauvre » sous les échafaudages où travaillaient les ouvriers, de gifler des nourrissons dans le métro. J'annonçais la publication d'un manifeste dénonçant l'oppression que les opprimés faisaient peser sur les honnêtes gens. Un jour où je mangeais de la langouste à la terrasse d'un restaurant et où un mendiant m'importunait, j'appelais le patron pour le chasser et j'applaudis à grand bruit le discours de ce justicier. « Vous gênez, disait-il. Mettez-vous à la place de ces messieurs d'art à la fin. »
Voilà, quelques rires, hein, effectivement, de temps en temps dans la salle, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Ils vont me renoncer pas trop, hein, si l'on a le droit de rire, ou un peu, ou pas trop, etc. Parce que ce personnage-là, quand on est dans la salle, il nous met un peu mal à l'aise, quand même. On ne sait pas toujours sur quel pied danser avec lui. C'est un homme pétri de contradictions qui nous renvoie peut-être
au nôtre.
À notre contradiction à nous.
Absolument. Et vous m'interrogiez tout à l'heure sur les différences avec, j'allais dire, l'ancienne version, hein, on va dire celle de 2014. Eh bien, il y a dans la version aujourd'hui beaucoup moins de réactions dans la salle, beaucoup moins de rires. Camus a énormément d'humour. Et ça m'a déstabilisé au départ. Et en fait, j'en suis très heureux pour les raisons que vous venez d'évoquer.
Oui, parce que moi, je me suis dit que c'est peut-être l'effet que vous recherchiez.
Absolument.
Précisément. C'est-à-dire mettre le spectateur, effectivement, mal à l'aise, lui tendre réellement ce
miroir
qu'on évoquait tout à l'heure.
Voilà, c'est pas pour le mettre mal à l'aise, mais c'est simplement pour qu'il se reconnaisse dans ses contradictions et dans nos zones grises à nous tous.
Mais ce personnage, justement, on ne sait pas trop, effectivement, Yvan Moran, si... on peut le détester, si on peut l'aimer, peut-être alternativement et en même temps les deux à la fois. Mais vous, en tant que comédien, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir à jouer? Le côté négatif du personnage ou le côté positif? J'ose même pas employer le mot, mais quand même.
Et je ne les sépare pas. Je ne sépare pas ces deux aspects. Donc, ce qui me rend heureux tous les soirs, c'est d'interpréter ce texte de Camus et d'essayer de donner chair et vie à Clamence qui nous ressemble tellement à toutes et à tous. Donc, je ne les sépare pas. C'est comme ce que nous évoquions il y a quelques minutes, entre sa sincérité et sa théâtralité, enfin, son mensonge. Je pense que entre l'homme qu'on aime, qui nous touche, qui nous émeut, et celui qu'on déteste par son cynisme, son mépris, sa supériorité, son goût de la servitude, je prends autant... Ce qui me rend heureux à jouer, c'est que c'est le même homme, tout cela. C'est ça qui, en tant que comédien, est formidable.
Oui, le même homme, et l'homme peut-être avec un grand H, d'une certaine façon, Agnès Pickel. C'est-à-dire que celui qui est sur scène, c'est un représentant de l'humanité, un représentant de ce qu'est l'être humain au sens camusien du terme.
Alors, certainement, ayant pris le titre de La Chute, on est dans toute l'aventure de l'homme, puisqu'on commence avec la Genèse. En même temps, Camus dit bien que c'est le prophète des temps médiocres, hein, des temps modernes médiocres. Je voudrais revenir sur la notion d'ironie. Ce texte est fondamentalement ironique, ça veut dire qu'effectivement, on ne peut jamais séparer les deux niveaux. Dans l'ironie, l'art du double discours, on ne peut pas séparer. Et je pense que la conception tragique que Camus a de l'être humain, en particulier dans le monde moderne, ne peut se dire qu'à travers l'ironie. Et c'est pour ça que je pense que La Chute va très loin dans l'image que Camus a de l'homme moderne.
Mais alors, au départ, La Chute ne s'appelait pas La Chute, mais s'appelait Le Cri. Hein. C'est bien ça, ce qui renvoie d'ailleurs directement au nom même de Clamence, quoi.
Celui qui clame dans le désert. Mais Clamence, c'est Jean-Baptiste. Clamence, c'est donc ce prophète qui normalement annonce le sauveur, et ici qui est un prophète de malheur, parce qu'il y a chute, mais il n'y a pas et aucune possibilité de rédemption, ni bien sûr de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas d'autre côté, mais ni même ici-bas. Donc c'est un livre incroyablement désespéré.
Et c'est un cri, ce que cette pièce, Yvan Morin ?
Oui. Oui, oui, réellement. Alors, il y a l'évocation, en effet, concrètement, du cri de cette femme qui se jette dans la Seine, qui l'évoque. Mais oui, c'est un cri, mais je dirais, c'est un cri d'amour humaniste. C'est un cri, pour moi, d'appel à aimer l'homme, avec un grand H, l'être humain, malgré tout cela. Et les derniers mots du texte, quand en effet, à la fois il dit qu'il aimerait dire à cette femme « Jette-toi encore dans l'eau pour que je puisse nous sauver tous les deux », et en même temps il dit « Il est trop tard ». Et le dernier mot du texte, c'est « Heureusement ». Donc toutes ces contradictions dans les 15 dernières lignes du texte, c'est ça que j'appelle un cri d'amour à l'humanité. C'est-à-dire que il n'y a aucune leçon que donne Camus. Il nous présente tel que nous sommes dans les moindres détails de notre vie quotidienne.
Ces nuits-là, ces matins plutôt, car la chute se produit à l'aube. Je sors, je vais d'une marche emportée le long des canaux. Dans le ciel livide, une lueur rosée annonce au ras des toits un nouveau jour de ma création. Au même moment, des centaines de millions d'hommes, mes sujets, se tirent péniblement du lit, la bouche amère, pour aller vers un travail sans joie alors, planant par la pensée au-dessus de tout ce continent qui m'est soumis sans le savoir, buvant le jour d'absinthe qui se lève, ivre enfin de mauvaises paroles, je suis heureux. Je suis heureux, vous dis-je. Je vous interdis de ne pas croire que je suis heureux. Je suis heureux à mourir. Ma solution, bien sûr, ce n'est pas l'idéal. Mais quand on n'aime pas sa vie, quand on sait qu'il faut en changer, on n'a pas le choix, n'est-ce pas ? Il faudrait n'être plus personne, s'oublier pour quelqu'un une fois au moins. Mais comment ? Ne m'accablez pas trop. Je suis comme ce vieux mendiant qui ne voulait pas lâcher ma main un jour à la terrasse d'un café. Ah, monsieur, ce n'est pas qu'on soit mauvais homme, mais on perd la lumière. Oui, nous avons perdu la lumière.
Voilà, donc extrait de La Chute dans sa première version. On le rappelle, Yvan Morin et la lumière qu'on évoquait à la fin de cet extrait. La transition est un petit peu facile, mais quand même, elle joue aussi un rôle majeur sur scène. Et vous avez toujours, d'ailleurs, accordé énormément d'importance à la lumière. Sans mauvais jeu de mots, c'est une façon pour vous d'éclairer le texte.
Oui, c'est pas un jeu de mots, ni encore moins un mauvais jeu de mots. C'est une réalité. J'ai eu le bonheur de, comme nous l'évoquions tout à l'heure, de naître dans une famille de gens de spectacle et à une époque où les tâches étaient beaucoup moins diversifiées qu'aujourd'hui. Et donc, comme je me suis formé au théâtre, où j'ai été formé au théâtre, très enfant, j'ai commencé, avant de faire des études de comédien, j'ai commencé par étudier la lumière et le son sur les spectacles. Et je me suis passionné particulièrement pour la lumière comme art de la transmission, là aussi. Ça a toujours été ce qui m'importait au théâtre, c'était la transmission, c'était pas l'esthétisme ni le plaisir nombriliste, ni le formalisme, c'était vraiment comment on transmet les textes. C'est-à-dire, le théâtre m'a toujours aidé à essayer de partager ma passion pour la littérature. Et la littérature théâtrale, mais les mots, pour les mots. Et la lumière a toujours été pour moi, en effet, une façon d'éclairer les textes. Et dans ce spectacle de la chute, à partir du moment où je réduisais au maximum, ou en tout cas au minimum, les éléments scéniques, pour accompagner Clamence et à Mexico City, dans ce bar d'Amsterdam, et sur les quais d'Amsterdam, le long des canaux, et dans l'île, et chez lui, il me semblait que sur un plateau nu avec juste un fauteuil, tout le travail revenait pour susciter l'imaginaire du spectateur à la lumière.
Et la lumière, vous avez travaillé avec Barbara, je crois, vous avez été régisseur lumière de Barbara, j'ai bien lu.
Vous avez bien lu.
Et aussi régisseur son de plusieurs autres très grands noms de la chanson française, Brassens ou encore Georges Moustaki. Qu'est-ce que vous avez appris au contact de ces gens-là qui étaient, j'imagine, particulièrement exigeants, aussi bien au niveau du son qu'au niveau de la lumière?
Avec, je mettrais Brassens à part. Brassens, j'allais dire, m'a tout appris. Je fais un lien d'ailleurs entre... J'ai jamais parlé avec Brassens de Camus, je le regrette aujourd'hui, mais pour moi, il y a le même amour de l'humanité. Et le même amour de l'autre, la même lucidité et le même amour de l'autre. Et ça, Brassens, qui est celui avec lequel j'ai plus parlé des grands noms de la chanson française que vous avez cité, parce que c'était sans doute le plus généreux, en tout cas dans les relations avec ses collaborateurs, il m'a appris bien au-delà du métier. Après, Moustaki et Barbara, c'était d'autres relations, et Moustaki m'a appris en effet la rigueur, l'exigence, et puis la place que pouvait avoir la chanson dans un discours politique aussi.
La liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise.
Mes sœurs et moi, peut-être grâce au livre que nous prêtait mon père, qui était un grand libraire, on a plongé dans le français et on n'en est jamais sorti. C'est, comme disait Camus, on était citoyen de la langue française avant d'être français.
Voilà, Moustaki qui cite donc Camus hein, dans cet extrait du documentaire signé Rémi Lenné intitulé « Moustaki comme Ulysse, de citoyen de la langue française ». Yvan Morin, comment est-ce que vous pourriez nous décrire justement la langue d'Albert Camus telle que vous l'exprimez dans ce spectacle La Chute actuellement au Mathurin ?
Oh, j'ai très court pour laisser la parole à la spécialiste de Camus qui est à mes côtés. Je dirais limpidité et profondeur.
Agnès Piquel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon justement dont Camus choisissait les mots et les agençait ?
Alors j'ajouterai deux mots, densité et frémissement. mais je crois que...
Pas de contradiction.
Non, pas du tout. D'abord je voudrais rappeler que c'est un homme de théâtre profondément, il a pratiqué tous les métiers au théâtre. Et je pense que pour lui, la parole, elle est verbale. Je suis persuadée qu'il entendait ce qu'il écrivait, qu'il l'écoutait d'abord. Il a un sens très... Bon, il est extrêmement scrupuleux dans ses brouillons. C'est pour cela qu'un certain nombre de gens pensaient qu'il ne fallait pas publier le premier homme, qu'il n'avait pas corrigé. Et pourtant, la langue est splendide. Et il est assez scrupuleux pour toujours orienter la langue dans le sens très précis de l'effet à produire. On a plusieurs styles de Camus. Quelquefois, on dit le style de Camus, c'est les premières phrases de L'Étranger. Non, dans L'Étranger, il y a des phrases somptueuses, très longues, et dans Le Premier Homme, il y a des phrases à la Proust. Il y a tous les registres, et ça, il y tient beaucoup, parce que l'écriture, c'est véritablement au service de quelque chose que l'on a à faire passer, mais effectivement c'est un amoureux des mots. Là, sa phrase c'est « j'ai une patrie, la langue française », que je trouve extraordinaire, parce que par ailleurs, il n'aime pas du tout le patriotisme.
Oh non.
Voilà.
J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri plusieurs fois répété qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figé me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps.
Et c'est donc vous hein, qui l'édite, Yvan Moran, les mots de Camus avec cette articulation parfaite. Il n'y a vraiment aucun accroc, hein, vraiment d'un bout à l'autre du spectacle, avec une justesse, avec vraiment une précision d'orfèvre. Comment est-ce que vous mettez le texte en bouche ?
Oh là là.
Là, on est un petit peu dans les petits secrets du comédien, oui. Oh, mais quand non, même, on a envie de savoir.
C'est un travail immense. Enfin, c'est un travail extrêmement long, lent, parfois désespérant. Je dis pas désespéré comme la chute, mais c'est un travail de savoir comment on respire chaque mot. C'est de revenir à la ponctuation de Camus, de tout d'un coup se dire « Ah, mais là, en fait, il y avait une virgule, donc c'est là que je respire. » Voilà, et puis c'est aussi des années d'apprentissage de technique théâtrale, d'articuler un texte. Mais c'est, en tout cas, dans un texte qui n'est pas destiné au théâtre, donc qui est très introspectif, même si c'est un dialogue dramatique, c'est un travail gigantesque et passionnant.
Oui, Agnès Piquel, vous avez retrouvé cette musicalité de la langue de Camus qu'on évoquait à l'instant. Ah,
complètement. J'ai entendu les phrases de Camus d'une manière extraordinaire, et je voudrais ajouter que ce n'est pas simplement l'expérience de l'homme de théâtre. En tant qu'enseignante, j'ai mesuré à quel point on faisait mieux passer les textes quand on les lisait, y compris longuement, à des jeunes gens qui sont perdus devant un texte parce qu'ils ne repèrent pas les articulations de la langue. Combien de fois des élèves, parce que j'étais en lycée, et puis après les étudiants me disaient « mais quand vous lisez, on comprend ». Voilà. Et en plus, c'est un énorme plaisir. Bon, je ne suis pas comédienne, mais c'est un énorme plaisir de lire ces textes. Et donc, de plus en plus, maintenant, dans les conférences que je suis amenée à faire, je lis des textes. Je pense que c'est effectivement une affaire de transmission. Le livre est capital, mais la transmission orale est irremplaçable.
C'est-à-dire, Yvan Moran, que quand vous êtes en scène, quand vous êtes sur scène, vous pensez réellement à apporter du sens au texte, ou en tout cas à le révéler pour ce qu'il est. C'est-à-dire que votre voix, elle est évidemment au service du texte, au service des mots, mais elle est aussi au service du sens.
Absolument. Alors, je n'y pense plus une fois que je suis en scène, mais j'y ai énormément pensé en répétition, jusqu'à assurer un certain nombre de moments, enfin, essayer de tout assurer pour justement ne plus penser que à la théâtralisation et à la transmission. Mais oui, ça passe, vous avez tout à fait raison, ça passe par ce travail en répétition énorme où on peut, je disais après la représentation à laquelle Agnès Piquel est venue, que quelquefois je me fais surprendre par le sens que je donne qui peut ne pas être exactement le même que la veille. Et une chose que j'affirme, à un moment, Camus dit, vous savez que Dante admet des anges neutres dans la querelle entre Dieu et Satan. Et si je l'affirme, s'il dit, mais dans le sens, mais bien sûr, vous savez que, ou si je l'interroge, ça me fait complètement basculer autrement toute la suite.
Ah oui, donc après 9 ans pendant lesquels vous tournez avec ce spectacle, vous parvenez encore à ne jamais jouer de la même façon et même à vous surprendre.
Alors, jamais jouer de la même façon, je ne sais
pas.
Parce
que c'est du spectacle vivant, naturellement, donc chaque représentation est unique.
Voilà, donc c'est quand même extrêmement balisé.
Oui, j'imagine.
Mais oui, j'arrive à me surprendre, en tout cas Camus arrive à me surprendre. Parce que selon l'état dans lequel je suis, selon le type de réaction ou d'écoute de la salle, je ne suis pas exactement dans la même énergie de transmission, et donc les mots ou l'adresse peut changer, comme l'exemple que je viens de donner. Et c'est pour ça que, contrairement à beaucoup de spectacles que j'ai joués, où à partir d'un certain nombre de représentations, on y met toujours tout son cœur, mais on est quand même très balisé. Là, pour moi, c'est une première tous les soirs.
Mais avec un cheminement que j'imagine effectivement très, très clair, très progressif, parce absolument. Que c'est vrai que le personnage lui-même se découvre effectivement petit à petit dans la pièce. On a vraiment l'impression presque d'un nuancier comme ça de couleurs à la fois vocales et de couleurs sensitives que vous déployez sur scène. Le danger, c'est quoi, Yvan Morane? C'est de vouloir aller trop loin, trop vite, de vouloir brûler des étapes, de passer d'une balise à l'autre sans forcément maîtriser tout cela?
Non, je ne dirais pas que le danger, je le ressens là. Le danger, je le ressens si la fatigue ou un élément qui me déconcentre, qui peut être le bruit d'un bracelet d'une dame, comme samedi soir, on est vraiment dans ce texte. J'ai un ami qui a trouvé l'expression que je cherchais depuis des années. Il m'a dit « tu es comme un funambule ». Et c'est exactement ce que je sens, c'est-à-dire que le danger, c'est de tomber. Et s'il y a un instant de déconcentration, ça c'est un danger. La peur, tous les soirs, elle vient exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire si quelque chose, ou moi-même, je me déconcentre ou je me laisse déconcentrer, et là c'est comme pour le funambule qui fait plus attention, il tombe.
Voilà, et ce funambule-là, c'est une métaphore intéressante, effectivement, de la chute de Camus, Agnès Piquel, justement, ce personnage un peu dual qui peut effectivement tomber d'un côté ou de l'autre.
Tout à fait, c'est excellent. Ce texte est vertigineux, j'ai toujours dit, parce que chaque fois que je l'enseigne ou que je le travaille, je découvre des choses nouvelles et je conçois qu'on puisse avoir le vertige, donc comme le funambule qui se met en danger. Et ce que Yvan Morane a dit sur le fait qu'il avait épuré complètement par rapport à la mise en scène, il se met d'autant plus en danger, il est plus funambule, mais du coup, le texte est infiniment présent, beaucoup plus, je le pense, donc difficile à jouer, mais magnifiquement réussi.
Je vous quitte près de ce pont, je ne passe jamais sur un pont la nuit. C'est la conséquence d'un vœu. Supposez après tout que quelqu'un se jette à l'eau, de deux choses l'une. Ou vous l'y suivez pour le repêcher et dans la saison froide vous risquez le pire. Ou vous l'y abandonnez. Et les plongeons rentrés laissent parfois d'étranges courbatures. Bonne nuit.
Merci beaucoup à tous les deux, Yvan Morane.
Merci à vous.
Et Agnès Piquel.
Merci.
La
merci
chute
beaucoup.
D'Albert Camus. C'est donc avec Yvan Morane et mise en scène par le même Yvan Morane jusqu'au 29 juin au Théâtre des Mathurins. Dans un instant, le journal, on se retrouve demain avec le trompettiste Éric Truffat, une des têtes d'affiche du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés qui se termine le 27 mai prochain. À demain donc, et vous m'en direz des nouvelles.